et bonjour à tous, en route sur les chemins de la philosophie. Bonjour Thibaut Grèce.
Bonjour Adèle.
Vous êtes philosophe, professeur au lycée Peggy à l'Institut catholique de Paris. Vous avez écrit Descartes et la précarité du monde aux éditions du CNRS, ainsi que des leçons sur les méditations métaphysiques, baroque et art d'écrire chez Ellipse. Un mot peut-être, j'en parlais avec Emmanuel Laurentin, quand on parle de méditation chez Descartes, ça n'a rien à voir avec la méditation en pleine conscience qu'on propose aujourd'hui ici.
Oui, alors à l'époque, au XVIIe siècle, évidemment, les méditations ont une portée d'emblée religieuse pour le lecteur. C'est une certaine manière d'accéder à Dieu. Alors évidemment, chez Descartes, la méditation est métaphysique, c'est-à-dire qu'elle va avoir une portée relativement ambiguë. Ouais. À la fois, on pourrait croire qu'elle est religieuse dans la mesure où le premier objet qu'il va s'agir de découvrir, c'est quand même Dieu. D'ailleurs, c'est dans le sous-titre des méditations. Et en même temps, la méditation, ça va être une espèce de réflexion sur la manière dont fonctionne l'esprit et sur les réalités et le type de réalité que l'esprit peut atteindre à travers cette réflexion-là.
Donc, c'est pas si éloigné de ce qu'on appelle la méditation aujourd'hui.
C'est pas si éloigné que ça, dans la mesure où dans les deux cas, il s'agit quand même de découvrir l'intériorité de l'ego et de déduire ce que cette intériorité peut nous permettre de comprendre quant aux réalités fondamentales.
On va vivre une expérience de pensée ensemble,
Thibaut Grèce,
puisque nous allons prendre Descartes au sérieux dans son projet de mise en doute absolue de l'existence du monde et de lui-même, dans le but, nous dit Descartes, de refonder intégralement le savoir. Alors, cette expérience dure 6 jours pour le narrateur des méditations métaphysiques. Il y en a 6 méditations, une par journée. Nous allons en prendre 4 de notre côté, 4 journées au cours desquelles on va passer de la perplexité à l'angoisse, puis progressivement à la joie et à la paix que procure la certitude. Alors, pourquoi douter de tout? Et comment trouver une terre ferme sur laquelle reconstruire le savoir? Bien, le premier élément à garder en tête est que cette expérience ne peut pas se faire à n'importe quel âge. Écoutez les premières lignes de la première méditation de René Descartes, rédigée devant un feu de bois en 1640.
Il y a déjà quelque temps que je me suis aperçu que, dès mes premières années, j'avais reçu quantité de fausses opinions pour véritables. Et que ce que j'ai depuis fondé sur des principes si mal assurés ne pouvait être que fort douteux et incertain. De façon qu'il me fallait entreprendre sérieusement, une fois en ma vie, de me défaire de toutes les opinions que j'avais reçues jusqu'alors en ma créance, et commencer tout de nouveau, dès les fondements, si je voulais établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences. Mais cette entreprise me semblant être fort grande, j'ai attendu que j'eusse atteint un âge qui fût si mûr, que je n'en pusse espérer d'autre après lui auquel je fusse plus propre à l'exécuter. Ce qui m'a fait différer si longtemps que désormais je croirais commettre une faute si j'employais encore à délibérer le temps qu'il me reste pour agir. Maintenant donc que mon esprit est libre de tout soin et que je me suis procuré un repos assuré dans une paisible solitude, je m'appliquerai sérieusement et avec liberté à détruire généralement toutes mes anciennes opinions.
Le projet est clair, Thibaut Grèce, en tout cas clairement énoncé dès les premières lignes des méditations métaphysiques. Il s'agit de détruire généralement toutes les anciennes opinions. C'est un projet de destruction.
Oui. Alors, c'est un projet de destruction, mais qui n'est pas à elle-même sa propre fin. Premièrement, et le début du texte est très clair là-dessus, en effet, on ne commence pas le doute à n'importe quelle période de sa vie. Il faut attendre une certaine maturité de la raison. Il faut attendre un certain âge qui ne doit être ni trop précoce, ni trop vieux, ni trop tardif. Et au fond, lorsque Descartes entreprend les méditations, il a environ 44 ans. Et c'est l'âge juste, apparemment, pour révoquer en doute l'ensemble des opinions, des connaissances qu'il a reçues depuis son enfance. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas présenter les méditations comme étant une espèce de moyen de se débarrasser comme ça d'un geste de manière très précoce des connaissances reçues. Ce n'est pas un mépris envers les connaissances scolaires qui est affiché.
C'est pas une crise d'adolescence
mieux
que les autres.
C'est très loin d'être un coup de tête. C'est vraiment le produit d'une réflexion, d'une raison qui est mature et qui se présente comme telle et qui prend des précautions avant d'annoncer le doute tel qu'il va l'exposer.
Vous parlez de doute, c'est en effet le mot-clé. Mm-hmm. On le trouvait déjà dans le discours de la méthode qui précède de quelques années les méditations métaphysiques, mais c'est vraiment dans ce texte-ci, qui est publié en 1641, que le doute prend tout son sens. Il s'agit d'un outil et non pas d'une fin en soi.
Alors oui, la question de la nature du doute est extrêmement complexe. Très souvent, on parle du doute méthodique, mais le doute méthodique est une expression qui n'apparaît pas dans les textes de Descartes. C'est déjà une interprétation de la nature du doute que de dire qu'il est méthodique, parce que c'est en fait le subordonné à une question de méthode. Or, en fait, il y a une véritable question derrière la raison pour laquelle on peut entreprendre de douter. On peut se demander, en effet, si ce n'est pas tout simplement le côté inconsistant de la réalité du monde qui est violemment ressenti par Descartes et qui l'amène en fait à utiliser le doute comme une réponse à cette espèce de réalité fuyante qu'il ne parvient pas à saisir. Et donc, on peut suivre, je pense, la thèse d'Alquier pour laquelle, au fond...
Ferdinand Alquier,
pour laquelle Descartes décrit une expérience métaphysique, c'est-à-dire l'expérience de l'inconsistance du monde à laquelle le doute, comme élément que l'esprit met en place, peut apporter une réponse pour justifier, je dirais, et mettre en ordre l'inconsistance du monde qu'il a expérimenté.
Ce que vous dites, c'est qu'il faut inscrire Descartes en son siècle.
Il faut l'inscrire en son siècle, il faut l'inscrire dans un monde essentiellement travaillé par le baroque et dans le sentiment
baroque. Par le baroque, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire dans un type de construction artistique et de rapport artistique au monde pour lequel, précisément, le caractère du monde devient douteux, pour lequel les réalités qui semblaient les plus établies paraissent s'effondrer et pour lesquelles, finalement, l'inconsistance devient un élément central du rapport au monde. Et on voit d'ailleurs dans les œuvres, que ce soit Shakespeare, Cervantes ou tous les grands auteurs de cette époque baroque, on voit la notion du doute envahir absolument tous les discours, on voit l'effondrement du monde à l'œuvre et on voit également une espèce de manière de se débattre à l'intérieur de cet effondrement et finalement le seul salut sera soit l'amour, ce sera le cas par exemple dans Hamlet, doute de tout sauf du fait que je t'aime, soit ce sera la découverte après tellement de tourments d'un dieu extrêmement lointain, extrêmement transcendant, mais qui est quand même là.
Deux choses qui pourtant ne sont pas l'objet d'un raisonnement. L'amour et Dieu appartiennent au cœur et à la croyance et pas à la raison.
Alors l'amour en effet, mais pour Descartes, évidemment, la question de Dieu va faire l'objet d'un raisonnement et ce seront les éléments centraux de la troisième et en partie de la cinquième méditation.
Ça, on en parlera mercredi prochain. Alors, Descartes doute de tout, dans un rapport au monde qui est fait de doute, et c'est pour cela qu'il remet en scène un doute encore plus radical, et j'emploie le terme de radical à dessein, puisqu'il s'agit, nous dit-il, dès la première méditation, et on va entendre la suite de cette première méditation dans un instant, il s'agit de douter de tout, c'est-à-dire des sens, de la connaissance, de l'existence du monde et de l'existence de soi. Ici, c'est tous les registres de la réalité qui passent sous le crible du doute.
Oui, il n'y a aucune raison, si vous voulez, de maintenir au départ une réalité qui serait admise par principe. Et l'idée, par conséquent, consiste à prendre tous les éléments qui paraissaient certains les uns après les autres et à montrer pour quelles raisons, c'est-à-dire pour des motifs rationnels, il est possible de les éliminer. Donc il y a une progressivité dans l'élimination que le doute opère, qui va commencer par la question des sens et qui va aller jusqu'aux vérités mathématiques. Et la volonté de Descartes, en fait, c'est de se demander quel est le fondement premier qui résisterait à un doute qui aurait essayé de tester, si j'ose dire, la totalité des croyances auxquelles nous adhérons. Et évidemment, à la fin de la première méditation, absolument tout sera présenté comme douteux, vous l'avez très bien dit, aussi bien mon existence que les vérités mathématiques, que tout ce qui est sensible, que même tout ce qui est intellectuel, et donc il va falloir tout reconstruire, et ce sera l'objet de la seconde méditation.
Il y a un danger à douter de tout, c'est celui de faire basculer la raison du côté de la folie. Descartes le sait et le craint, écoutez-le.
Encore que les sens nous trompent quelquefois, touchant les choses peu sensibles et fort éloignées, il s'en rencontre peut-être beaucoup d'autres, desquels on ne peut pas raisonnablement douter, quoique nous les connaissions par leurs moyens. Par exemple, que je sois ici, assis auprès du feu, vêtu d'une robe de chambre, ayant ce papier entre les mains et autre chose de cette nature. Et comment est-ce que je pourrais nier que ces mains et ce corps-ci soient à moi? Si ce n'est peut-être que je me compare à ces insensés de qui le cerveau est tellement troublé et offusqué par les noires vapeurs de la bile qu'ils assurent constamment qu'ils sont des rois lorsqu'ils sont très pauvres, qu'ils sont vêtus d'or et de pourpre lorsqu'ils sont tout nus, ou s'imaginent être des cruches ou avoir un corps de verre. Mais quoi? Ce sont des fous et je ne serais pas moins extravagant si je me réglais sur leurs exemples.
Vous êtes sur France Culture, les chemins de la philosophie, aux côtés de Descartes qui est assis auprès du feu. On l'envie, hein, Thibaut Grèce, en ces périodes de grand froid. Mmh. Il est auprès du feu, vêtu d'une robe de chambre, où on saura tout. Et il fait vraiment une expérience de pensée qu'on peut tous reproduire, qui est assez aisée, en fait, à reproduire, en se disant, mais ces mains que je vois, sont-elles vraiment à moi? Ce feu que j'entends, est-ce qu'il existe vraiment? Est-il vraiment, n'est-il pas juste le fruit de mon imagination? En clair, si je remets en question tout ce que je vois, toutes les informations que mes sens me donnent, alors rien ne me prouve que je ne suis pas fou, que je n'imagine pas tout ce monde dans lequel je vis.
Oui, absolument. Le texte s'inscrit après une révocation en doute de tout ce qui était sensible. Il a commencé par exposer, d'une certaine manière, ce qu'il y avait de plus simple, à savoir la possibilité de mettre en doute l'ensemble des réalités sensibles. Non pas d'ailleurs tant par leur propre constitution, mais par le fait que mes sens ne sont pas fiables. Mes sens me trompent, et par conséquent, tout ce à quoi j'accède par mes sens est révoqué en doute. Donc c'est plutôt, en fait, le type de rapport que j'entretiens avec ce qui est sensible, qui est douteux, que la chose elle-même. Pour l'instant, il n'a pas encore statué sur la réalité sensible elle-même.
Il faut quand même dire, quand il fait ça, qu'il prend sa distance de manière très très forte avec toute une histoire de la philosophie qui identifie les sens comme étant l'étape première vers la connaissance.
Oui, vous avez raison. Il prend ses distances avec une certaine forme de thomisme qui était très répandue dans la philosophie médiévale et notamment dans la scolastique, pour laquelle, en effet, le mode intuitif direct d'accès à la réalité était le mode sensible. Et au fond, Descartes fait porter le doute d'abord sur ce mode d'accès au monde et par conséquent prend ses distances absolument avec...
Saint Thomas, mais aussi Aristote. Hein,
bien sûr.
Justement, la connaissance commence par le sensible.
Saint Thomas, qui s'inspirait d'Aristote, mettait les sens en avant pour accéder au monde. Et donc, en effet, en faisant porter le doute là-dessus, Descartes prend ses distances avec un élément qui pourtant était admis au sein de la scolastique tardive à laquelle succède Descartes. Alors cela étant dit, évidemment, il rencontre un obstacle qui est extrêmement expérimentable par nous-mêmes, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de la vraisemblance du doute. C'est-à-dire, je peux tout à fait douter que quelque chose qui est lointain, que je vois de très loin ou que je sens de très loin, je peux en douter, mais en revanche, quand la proximité apparaît, quelque chose tout d'un coup résiste au doute, c'est-à-dire que le fait que la chose soit sensible, le fait que j'y accède par les sens, ne suffit plus à motiver le doute. Et donc c'est le cas de mon corps, même si je veux douter de tout ce qui est sensible au motif que mes sens ne sont pas fiables, il n'en demeure pas moins que je continue de sentir mon corps avec une espèce d'évidence qui résiste à la volonté du doute. Et il en va de même d'ailleurs pour tous les objets qui m'entourent, et donc la proximité des objets, et y compris mon corps propre, résiste d'une certaine manière au doute. Ce qui veut dire que, à ce moment-là, Descartes affirme que la nature sensible des corps et le type de rapport que j'entretiens avec eux, donc un rapport sensible, ne suffit plus à motiver le doute. Donc, il va devoir essayer de continuer à justifier l'exercice du doute en modifiant sa motivation et donc en abandonnant le fait que ce soit un type de rapport sensible. Et c'est pour ça que la folie intervient, parce qu'il se dit, mais si je vais jusqu'à douter de mon corps propre, si je vais jusqu'à douter des objets qui me sont proches, est-ce que je ne risque pas en effet de sombrer dans la folie? C'est-à-dire, est-ce que le fait de dépasser le doute par la réalité sensible et par le rapport sensible ne risque pas d'entraîner la folie? Et là, tout d'un coup, évidemment, quelque chose d'assez effrayant se présente à lui.
Mais il le recherche, il recherche.
Évidemment, il va l'affronter. Et d'une certaine manière, après tout, dans la première méditation, il n'y a pas de raison de refuser la folie. Il n'y a pas de raison de dire « ce sont des fous, donc c'est faux ». Puisque de toute façon, ni le vrai ni le faux ne sont pour l'instant établis. La seule chose qu'il vient d'établir, c'est le douteux. Mais il n'a pas encore statué sur le vrai et sur le faux. Donc il n'y a pas de raison a priori d'exclure la possibilité d'être fou. Ce qui fait que quand il va affronter la question de la folie, il ne l'exclura pas au motif que la folie est en soi non acceptable. Il l'exclura pour un tout autre motif, qui est le motif du rêve et qui est le motif de la possibilité d'avoir un rapport au monde qui n'est pas de l'ordre de la veille.
Mais il faut s'imaginer que l'expérience que nous propose Descartes est non seulement troublante, mais aussi très angoissante, parce qu'elle consiste à ne tenir rien pour acquis. C'est-à-dire que non seulement il n'y a plus de vrai et plus de faux, les vérités logiques n'en sont plus, on peut tout remettre en question, mais même l'évidence, et c'est pour ça que le recours au sensible est particulièrement intéressant, même ce qui est évident, à savoir que j'ai un corps, voire même que je suis un corps, eh bien l'évidence ne suffit plus à rien prouver. Dans une espèce d'état de suspension générale de tout ce que nous savons et tout ce que nous sentons, si bien que c'est quasiment notre propre existence qui est mise en danger. Nous ne savons plus qui nous sommes, ni ce à quoi nous pouvons aspirer, dès lors que tout est mis en doute et qu'il n'y a plus à proprement parler, de socle ferme à mon existence.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est la raison pour laquelle les méditations ne sont pas uniquement un texte théorique. C'est un texte qui s'expérimente et c'est la raison sans doute pour laquelle il y a cette mise en scène en différentes journées. Ce sont des méditations éprouvantes presque pour l'esprit qui nécessitent un certain repos, qui nécessitent une prise de distance même par rapport à ce qu'il est en train d'écrire pour se remettre de cette expérience qu'il décrit. Et il est tout à fait exact que quand on parvient à faire l'expérience de la possibilité que notre corps lui-même soit douteux, que nous n'ayons pas de corps ou que le corps que nous avons ne corresponde en aucun cas à ce que l'on croit avoir, eh bien cette expérience en effet est bouleversante. Et je pense qu'il faut la mener pour véritablement comprendre l'embarras métaphysique dans lequel Descartes se trouve et qu'il tente de partager avec le lecteur. Et ce sont des expériences, là encore, terriblement baroques. Dans le texte qui a été lu, il est question du corps de verre. Il est fort probable que Descartes reprenne là une petite nouvelle de Cervantes qui s'appelle « Le licencié de verre », dans laquelle un homme, manifestement dément dans la nouvelle, finit par croire qu'il est doté d'un corps de verre. Le texte a été traduit en français en 1614 et il est fort probable que Descartes en ait eu connaissance d'une manière ou d'une autre. Donc peut-être qu'il y a même là une référence explicite à une nouvelle de Cervantes et qui est reprise est reprise dans le but de montrer au lecteur des expériences très concrètes qu'il pourrait éprouver.
On est bien loin ici du Descartes rationaliste qu'on aime à peindre. Hein, on parle toujours d'esprit cartésien, oui. De rationalisme cartésien. Au contraire, Descartes met tellement tout en question que même la raison semble ne pas être un socle stable à la connaissance.
Tout à fait. On a l'impression qu'il mène une entreprise classique, c'est-à-dire guidée par la raison, guidée par l'ordre, mais dans une mise en scène baroque, c'est-à-dire dans une mise en scène où apparaissent tout un tas de personnages étonnants, des espèces de monstres comme le malin génie, des idées comme le corps de verre. Même dans la troisième méditation, finalement, quand il finit par découvrir Dieu, c'est extrêmement proche des coupoles baroques, vous savez, de ces coupoles où au-delà des nuages, enfin apparaît Dieu, mais après quelle difficulté il apparaît. Donc le décor, la mise en scène semble baroque, mais à l'intérieur de cette mise en scène, il y a quand même la raison qui avance avec ses constructions, avec ses acquis, mais elle avance de manière un petit peu sinueuse. Elle n'avance pas de manière droite, elle avance quand même tout le temps par contre-coup. C'est très très flagrant dans la première méditation. Il y a plein de moments où tout d'un coup on s'attend à une déduction, et la déduction qui est attendue ne vient pas. Ce sera le cas avec, par exemple, la question du dieu trompeur. Et Descartes passe sa vie à faire des pas de côté. Et donc ça, c'est typiquement baroque. C'est typiquement l'inattendu qui structure le texte et qui confère presque une esthétique aux méditations métaphysiques, une esthétique qui n'est pas classique et qui est véritablement baroque.
L'obstacle qu'il rencontre ensuite, si on continue la lecture avec vous, Thibaut Grèce, c'est une objection qu'il se fait à lui-même. D'ailleurs, on peut la poser, hein, comment être sûr que nous ne sommes pas en train de rêver ?
Vous créez le monde d'un rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve. Et le sujet y met tout son subconscient.
Comment voulez-vous que j'obtienne suffisamment de détails pour le convaincre que c'est la réalité ?
C'est que les rêves, ils font vrai tant qu'on est dedans, pas vrai ? Ce n'est qu'au réveil qu'on remarque qu'ils avaient comme quelque chose d'étrange. Une petite question. Vous ne vous souvenez jamais vraiment du début de vos rêves, n'est-ce pas ? Vous atterrissez systématiquement au beau milieu de l'action.
C'est juste, oui.
On est arrivé comment ici ?
Eh bien, on sort à peine de...
Comment êtes-vous arrivé ici ? Réfléchissez, Ariane. Où êtes-vous en ce moment ?
On est en train de rêver ?
Vous êtes au beau milieu d'un atelier pratique, là, endormi. Vous suivez votre première leçon de rêve partagé. Gardez votre calme.
Toutefois, j'ai ici à considérer que je suis homme et par conséquent que j'ai coutume de dormir et de me représenter en mes songes les mêmes choses ou quelquefois de moins vraisemblables que ces insensés lorsqu'ils veillent. Combien de fois m'est-il arrivé de songer la nuit que j'étais en ce lieu, que j'étais habillé, que j'étais auprès du feu, quoique je fusse nu dedans mon lit. Il me semble bien à présent que ce n'est point avec des yeux endormis que je regarde ce papier. Que cette tête que je remue n'est point assoupie, que c'est avec dessein et de propos délibérés que j'étends cette main et que je la sens. Ce qui arrive dans le sommeil ne me semble point si clair ni si distinct que tout ceci. Mais, en y pensant soigneusement, je me ressouviens d'avoir été souvent trompé lorsque je dormais par de semblables illusions. Et, m'arrêtant sur cette pensée, Je vois si manifestement qu'il n'y a point d'indice concluant, ni de marque assez certaine par où l'on puisse distinguer nettement la veille d'avec le sommeil, que j'en suis tout étonné. Et mon étonnement est tel qu'il est presque capable de me persuader que je dors.
Alors cette fois-ci, on est toujours auprès du feu avec Descartes, Thibaut Grèce, mais Descartes a enlevé sa robe de chambre, il dit qu'il est tout nu dans son lit. Hein, donc là, vraiment, il ne nous épargne aucun détail. Mais malgré cette nudité, son corps lui échappe sans doute encore, puisqu'il ne peut pas en prouver l'existence, d'autant plus qu'ici, il considère que puisqu'il est un homme, et cette expression est très importante, hein, il parle ici, il s'adresse à l'humanité en lui-même, ce qui fait qu'il est homme, eh bien, c'est aussi qu'il dort. Or, tout comme dans le film Inception, donc on a entendu un extrait juste avant de Christopher Nolan, eh bien, le personnage d'Ariane ne sait pas qu'elle est en train de rêver, et on lui propose de faire sa première leçon de rêve partagée, eh bien, c'est ce que nous propose Descartes également. C'est tellement terrifiant, Thibaut Grèce, parce que finalement, il nous dit bien qu'on ne pourra jamais savoir si nous sommes vraiment réveillés au moment où nous parlons.
Oui. Alors, en fait, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut peut-être partir une fois de plus du tout début. La première étape a consisté, au fond, à dire, j'élimine tout ce qui a été acquis par les sens. Il ne va pas étudier, en fait, connaissance par connaissance. Il ne va pas faire une liste empirique de connaissances qu'il s'agirait de révoquer. Il s'en prend au fondement de sa connaissance. Le premier fondement, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec la question scolastique et thomasienne, c'est vraiment la question du rapport intuitif de nature sensible au monde, il l'élimine. Tout d'un coup, il s'aperçoit que néanmoins, ce motif ne suffit pas lorsqu'il s'agit des objets proches, c'est la deuxième étape, et il se dit, mais est-ce que ce ne serait pas être fou que d'en venir à douter des objets proches et de mon propre corps ? Troisième étape, c'est pas parce que ce serait être fou que c'est faux. Donc, il lui faut trouver un autre motif. C'est donc la troisième étape. Le motif suivant, c'est le motif de la distinction entre la veille et le songe. Là encore, il faut peut-être contextualiser. On est dans un XVIIe siècle dans lequel la notion de confusion entre la vie et le songe, la vie éveillée et le songe est fréquente. La vie est un songe de Calderon est construite là-dessus. Mais c'est loin d'être le seul. Bossuet, dans un très grand nombre de sermons, alors c'est postérieur à Descartes, mais rappelle quand même la très grande difficulté à distinguer les deux éléments. Et donc, c'est quasiment un topos du XVIIe siècle que de mobiliser cet argument-là. Alors, l'argument chez Descartes est extrêmement clair. Il consiste à dire, puisque il m'est arrivé, en dormant, de croire que j'étais éveillé, peut-être est-il envisageable qu'actuellement, je suis précisément en train de dormir et je ne suis pas du tout en veille. Je ne suis pas du tout éveillé à l'heure actuelle. Donc, dans ce cas-là, mon corps et les objets qui me sont proches sont, pour cette raison-là douteuse, parce que ce sont des objets de mon rêve et non pas des objets que je constate en étant éveillé. Donc le motif d'évacuation ou le motif de révocation en doute des objets qui me sont proches, mon corps et les objets qui entourent mon corps, ce n'est évidemment pas le fait de contester la folie, c'est tout simplement le fait de dire « il est possible que je sois en train de rêver puisqu'il m'est déjà arrivé de rêver en croyant être éveillé, eh bien il est possible que cela se reproduise à nouveau et que ce soit le cas actuellement ». Et finalement, vous avez raison, c'est effrayant parce qu'il est possible, si on étend cet argument-là à l'ensemble de la vie, que la totalité de notre vie ne soit qu'une espèce de rêve qui se prenne pour une veille.
Là, on est presque dans la théorie du complot.
On est presque, oui, ou quelque chose dans Matrix, ou oui, absolument.
Bah, et d'ailleurs, l'hypothèse du malin génie qu'on va aborder dans un instant le laisse penser. Imaginons que tout soit faux, que ce monde n'existe pas, que je sois entièrement trompé depuis le début de mon existence. C'est un argument complotiste.
C'est quelque chose qu'on n'a pas à évacuer a priori, c'est une possibilité qu'il faut affronter. Et tout le génie de Descartes à ce moment-là, c'est justement de ne pas en rester à cette hypothèse, mais de se demander, et alors, supposons que nous soyons tout le temps en train de dormir, est-ce qu'à l'intérieur de ce sommeil, est-ce qu'à l'intérieur même de mes rêves, je ne pourrais pas malgré tout découvrir un fondement qui soit certain et qui pourrait fonder un certain nombre de réalités. Là où les autres auteurs en restent finalement à l'idée d'une confusion, à l'idée qu'il est possible que nous soyons en train de rêver, Descartes ajoute « oui, mais peut-être même que si nous étions en train de rêver, il y aurait quand même quelque chose de certain ». Et c'est ça qu'il va essayer de découvrir dans la suite du texte.
C'est-à-dire qu'il est prêt à accepter que tout ne soit qu'un rêve, absolument, mais qu'il ne reçoit pas ça comme un obstacle suffisant pour arrêter sa démarche. Au contraire, ok, quand bien même ce serait un rêve, voyons de quoi puis-je m'assurer au sein de ce rêve.
C'est-à-dire que dans le rêve, il y a des éléments, il y a des objets qui peut-être sont suffisamment certains, sont aux yeux de l'esprit en tout cas suffisamment fiables pour pouvoir leur accorder une créance. Donc il n'y a pas de raison, là encore, d'éliminer a priori la possibilité qu'à l'intérieur du rêve se révèlent des réalités stables.
À condition d'accorder beaucoup d'importance, vous parlez de créance, c'est qu'ici on ne peut plus être dans la démonstration, mais dans un registre qui est peut-être pas celui de la raison, qui est celui de croire en l'existence de quelque chose, de postuler. Là, c'est très important, on change de registre.
Alors, vous avez raison. La créance chez Descartes va au fond avoir deux sens. Elle a un sens qui est faible, c'est-à-dire le fait de croire sans raison. Et puis, elle a un sens qui est fort, qui est de l'ordre de la certitude au sens cartésien du terme, c'est-à-dire de croire à ce qui a fait l'objet d'une démonstration, de croire parce qu'il y a de bonnes raisons justement d'y croire. Et au fond, cette croyance, cette créance serait dépassée d'une certaine manière par la raison valable d'y porter son adhésion. Donc, au fond, la première méditation vise à montrer que l'ensemble de nos pensées étaient des créances au sens faible. L'ensemble de nos pensées étaient des croyances que nous avions acquises sans véritablement nous demander si elles étaient valables. Et le but, c'est de fonder de nouvelles croyances ou de nouvelles créances, mais qui ne sont pas uniquement des adhésions naïves, mais qui sont au contraire justifiées par l'entreprise du doute et qui sont justifiées parce que la raison aura découvert et établi. Donc il y a une espèce de passage d'une créance faible à une créance forte qui sera vraiment effective à partir de la seconde méditation. Et dans la seconde méditation, j'aurai raison de croire à l'existence du moi. Ce ne sera pas qu'une croyance faible.
Vous dites « j'aurai raison » et c'est vrai qu'il y a ce jeu dans le texte qui est assez troublant. Descartes ou le narrateur du texte en tout cas, mais qui crée un processus d'identification avec le lecteur qui marche très bien.
Absolument, il y a la manière de raconter une expérience par laquelle le lecteur peut reproduire le procédé que Descartes est en train de mettre en scène.
Parce que ce jeu, pour le coup, n'est pas à la fois c'est le jeu de Descartes qui se décrit en robe de chambre ou nu devant la cheminée, et en même temps c'est le jeu qui invite tout à chacun à se sentir concerné. Il y a quand même le postulat d'une forme d'universalité de cette expérience.
Absolument, et en même temps ce qui est très paradoxal, c'est que le jeu qui va reproduire l'expérience est amené à se défaire lui-même. Il est amené à se noyer lui-même et il va aller jusqu'à la possibilité d'anéantir le propre moi, puisque le moi ne sera véritablement conquis que dans la méditation suivante. Donc finalement, toute la première méditation laisse l'existence réelle du moi dans l'indécision. Donc si le lecteur reproduit véritablement le cheminement que Descartes propose, normalement il devrait arriver jusqu'à douter de l'existence de son propre moi, bien que ce soit en effet d'une certaine manière le moi qui mène la danse.
Alors on l'a dit, on est au XVIIe siècle, dans un contexte particulier, c'est-à-dire que toute réflexion philosophique ne peut pas faire l'économie d'une réflexion, d'une dimension sinon religieuse, du moins théologique. Descartes se doit d'accorder une certaine place à Dieu dans son système, qu'il le fasse de bonne foi ou de mauvaise foi, c'est encore une autre question. Mais un lecteur de son temps, en lisant ce texte, lui dirait « Mais enfin, vous pouvez douter de tout, mais il y a quand même une chose qui doit vous sortir du doute, c'est l'existence de Dieu, qui lui-même vous a créé, et donc doit vous assurer que votre existence est bien réelle. » Et bien même à cette objection-là n'est pas recevable pour Descartes, puisqu'il postule que peut-être Dieu puisse être ce qu'il appelle un malin génie.
Oui, alors ça c'est une question qui est très complexe et qui en fait a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que si on se met à douter de la réalité du monde, on se met à douter de ce que l'on appelle la création. Et donc, avant même de douter du créateur, le doute portant sur la création est extrêmement risqué. Donc là, il faut mesurer l'audace, évidemment, pour un texte du XVIIe, que cette mise en scène du doute envers la création suppose. Deuxièmement, ça suppose également d'abandonner toute forme de foi immédiate, toute forme de confiance immédiate envers les textes sacrés. C'est-à-dire, tout d'un coup, se trouve démonétisé l'ensemble des Écritures saintes. Et c'est l'objet d'ailleurs de l'adresse au docte qui précède les méditations, dans laquelle, Descartes, d'une manière relativement ironique d'ailleurs, dit au docte qu'il a le même objectif qu'eux, c'est-à-dire démontrer l'existence de Dieu, mais que la manière dont les doctes procèdent à cette démonstration est profondément non convaincante. Elle relève d'une pétition de principe, c'est-à-dire qu'elle prend pour acquis ce qui précisément devrait être démontré. Alors concrètement, ça veut dire que Descartes expose la chose suivante. Il part du principe que les doctes considèrent que pour arriver à Dieu, il faut lire les Écritures saintes et que les Écritures saintes sont le fondement prouvant l'existence de Dieu. Et Descartes, d'une manière assez ironique, dit « oui, mais on pourrait considérer ». Il ne dit pas « je », évidemment, il dirait « on », comme s'il était l'avocat du diable. Mais sa plaidoirie, évidemment, est aussi en son nom propre. On pourrait considérer qu'il faudrait déjà accepter que Dieu existe pour considérer que les Écritures saintes soient valides. Et donc, d'une certaine manière, il faut prendre pour acquis l'existence de Dieu pour accorder du crédit aux Écritures saintes. Donc, il montre la pétition de principe qui est à l'œuvre dans le fonctionnement des doctes. Et lui dit, finalement, si l'on veut véritablement convaincre les libertins ou si l'on veut véritablement convaincre les athées, eh bien, il faut partir sans aucun présupposé. Et il faut, par la raison seule, par le pouvoir de la raison, réussir à remonter jusqu'à la réalité divine. Mais ça, ce sera l'objet de la troisième méditation. Alors, pour revenir à votre question concernant la nature de Dieu, Il y a deux personnages étonnants qui apparaissent dans la première méditation. Il y a le dieu trompeur et il y a le malin génie. Alors, j'aurais plutôt tendance, avec un commentateur qui s'appelait Henri Gouillet, à considérer que ce sont deux choses plutôt différentes. Le dieu trompeur, c'est un problème qui tient au fait de savoir qui est en mesure de mettre en doute le fonctionnement de l'esprit. C'est-à-dire, à l'issue de la réflexion de Descartes sur le rêve et sur le contenu du rêve, Descartes arrive à la conclusion suivante, à savoir que il y a dans le rêve des éléments qui sont similaires à ceux que l'on pourrait constater dans la veille, c'est-à-dire que même dans le rêve, il y a des éléments qui sont, disons, purement rationnels. Par exemple, il n'est pas possible dans un rêve de se représenter un objet qui ne serait pas étendu, qui n'occuperait pas une place dans l'espace. On peut rêver de choses étranges, mais il n'en demeure pas moins que ces choses étranges auxquelles nous rêvons obéissent à des règles. Et ces règles, au fond, sont les mêmes, aussi bien dans le rêve que dans la veille, à supposer qu'il y ait de la veille. Bon, mais en tout cas, ça obéit quand même à des règles que l'esprit peut comprendre. Et ces règles, au fond, sont globalement rationnelles. Par conséquent...
Il y a des règles dans les rêves ?
Il y a des règles dans les rêves, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se représenter. Je ne peux pas me représenter un objet qui n'est pas étendu. Un objet matériel a forcément une place à occuper dans l'espace, et ça, même dans le rêve, il ne peut pas en aller autrement. Donc, ces règles-là, Descartes considère qu'elles sont inscrites dans l'esprit. C'est la reprise des fameuses natures simples, c'est-à-dire un certain nombre de règles pour l'esprit qui structurent sa manière de se représenter les choses. Et par conséquent, Descartes arrive à la question suivante. Est-ce qu'il est possible de douter du fonctionnement rationnel de l'esprit ? Est-ce que finalement, quelque chose qui est rationnel est fiable ? Est-ce que le fait que quelque chose soit conforme à la raison signifie qu'il soit digne de créance ? Mais à peine a-t-il posé cette question qu'il est face à une nouvelle difficulté, à savoir, mais qui est en mesure de décider de ce qui est fiable par rapport à l'esprit ? Bah, c'est encore l'esprit. Seul l'esprit peut statuer sur le caractère fiable du fonctionnement de l'esprit. Or, l'esprit ne peut pas être juge et partie. Ça, c'est strictement impossible. Il ne peut pas être à la fois celui qui décide de ce qui est fiable et celui qui est examiné. Donc, il faut sortir de l'esprit et trouver un arbitre extérieur à l'esprit. Et cet arbitre externe à l'esprit, c'est le rôle du dieu trompeur. C'est-à-dire, faisons une hypothèse métaphysique. Imaginons, au fond, que Dieu ne soit ni bon ni mauvais. C'est pas tellement la question. Parce que être trompeur n'implique pas qu'il soit mauvais.
Il peut être joueur.
Pour l'instant, on n'a pas encore introduit la morale. Absolument, il peut être joueur. Imaginons que Dieu soit trompeur. Et donc, on propose une hypothèse sur la nature de Dieu. Et cette hypothèse est destinée fondamentalement à avoir quelqu'un qui a un point de vue externe sur l'esprit et qui n'est pas jugé parti. Et donc ça, c'est la première apparition du dieu trompeur.
Du dieu trompeur, il va ensuite passer à l'exemple du malin génie.
Oui, alors le malin génie, c'est un autre problème. C'est le problème, à mon avis, de la motivation du doute. C'est-à-dire, Descartes va justifier rationnellement les raisons pour lesquelles on peut douter, mais il arrive un moment où il prend conscience, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il est homme et que, étant homme, dans les faits empiriques, il a énormément de mal à douter. Rationnellement, il a les motifs de douter, mais dans les faits, c'est très dur de douter.
C'est la force de l'habitude qui fait qu'on est porté à postuler l'existence de choses, heureusement.
Il y a une force de l'habitude qui nous amène à adhérer à ce à quoi nous croyons et qui donc combat le doute. Donc le malin génie, c'est simplement une espèce d'artifice que son esprit va mettre en place pour l'aider à douter, pour l'aider empiriquement à douter.
Écoutons comment il présente cet exemple du malin génie ou du mauvais génie.
Je supposerai donc qu'il n'y a point un vrai Dieu qui est la souveraine source de vérité, mais un certain mauvais génie, non moins rusé et trompeur que puissant, qui a employé toute son industrie à me tromper. Je penserai que le ciel, l'air, la terre, les couleurs, les figures, les sons et toutes les choses extérieures que nous voyons ne sont que des illusions et tromperies dont il se sert pour surprendre ma crédulité. Je me considérerai moi-même comme n'ayant point de main, point d'yeux, point de chair, point de sang, comme n'ayant aucun sens, mais croyant faussement avoir toutes ces choses. Je demeurerai obstinément attaché à cette pensée. Et si par ce moyen, il n'est pas en mon pouvoir de parvenir à la connaissance d'aucune vérité, à tout le moins il est en ma puissance de suspendre mon jugement. C'est pourquoi je prendrai garde soigneusement de ne point recevoir en ma croyance aucune fausseté et préparerai si bien mon esprit à toutes les ruses de ce grand trompeur que, pour puissant et rusé qu'il soit, il ne pourra jamais rien imposer.
écoutez Les Chemins de la philosophie sur France Culture. Vous êtes en compagnie de Thibaut Grèce, le professeur de philosophie Thibaut Grèce, spécialiste de Descartes, qui nous accompagne aujourd'hui dans le premier temps de cette série d'émissions passées au coin du feu avec Descartes, à essayer de lire ses méditations métaphysiques et recréer avec lui l'expérience même de pensée radicale que sont ces méditations métaphysiques. Dans le texte que l'on vient d'entendre, l'hypothèse du mauvais génie que vous avez, ou du malin génie que vous avez présenté, Thibaut Grèce, ce qui est fascinant, c'est qu'à la fin du texte, Descartes non seulement postule l'existence d'un dieu trompeur et d'un malin génie, qui sont deux choses différentes, mais qui sont quand même très audacieuses pour son époque. Et puis surtout, il termine en acceptant une sorte de face-à-face avec ce malin génie. Il dit « Mais je suis prêt, je préparerai si bien mon esprit à toutes les ruses de ce grand trompeur, que pour puissant et rusé qu'il soit, il ne pourra jamais rien imposer. » Descartes, ici, provoque ce malin génie en duel, quasiment.
Oui, absolument. Alors, pour bien comprendre le problème, peut-être avec un exemple, on pourrait clarifier les choses. Supposons que je sois en mathématiques et que je considère que 2 plus 3 fasse 5. Cet énoncé-là est rationnel, c'est-à-dire il est conforme à la raison. Mais être conforme à la raison, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, n'est pas forcément conforme à la réalité en soi. Et donc le dieu trompeur, il sert à douter de cela. C'est-à-dire, au fond, il est parfaitement possible que Dieu m'ait fait de telle sorte que mon esprit soit mal conçu et que, au fond, 2 et 3 fassent dans la réalité 6, mais que Dieu m'ait conféré un esprit pour lequel il soit rationnel que 2 et 3 fassent 5. Donc je ne peux pas penser autrement, je suis condamné à me représenter que 2 et 3 fassent 5, mais en fait Dieu m'a trompé, dans la réalité absolue, cela fait 6. Donc le Dieu trompeur, c'est véritablement quelque chose qui permet de me dire, si ça se trouve, mon esprit a été fait par un être puissant qui a été fait de telle sorte que lorsque je pense de manière rationnelle, je me trompe. Donc il y a une espèce de distinction que Descartes introduit, qui est une distinction vertigineuse, entre le rationnel et le vrai. Quelque chose peut être tout à fait rationnel et parfaitement faux parce que Dieu l'a voulu. Et là, en effet, vous parliez d'audace, c'est extraordinaire, parce que quand on y pense, la situation dans laquelle Descartes place le lecteur, et notamment les doctes, est la suivante. Dans les faits empiriques, il est évident que nous nous trompons. Il est évident que nous nous trompons. La question est de savoir si quand nous nous trompons, nous sommes trompés. Est-ce que nous sommes trompés par quelque chose ?
Sommes-nous responsables de notre erreur ?
Sommes-nous responsables ou non de notre erreur ? Et au fond, on n'a que deux options. On a une alternative avec deux options. Soit Dieu est tout-puissant, auquel cas la tromperie est un effet de sa puissance et donc de sa volonté, auquel cas il faudrait renoncer partiellement, au moins, à l'idée que Dieu soit bon. Parce que l'idée qu'un dieu puisse vouloir que sa créature se trompe est extrêmement problématique relativement à sa bonté. Soit, deuxième possibilité, il faut renoncer à sa puissance, conserver éventuellement sa bonté. Mais si on renonce à sa puissance, on tombe dans un autre problème, à savoir que si Dieu n'est pas puissant, il ne peut pas produire des créatures de bonne qualité, si j'ose dire. Et donc, nous sommes, du fait même de la faiblesse de Dieu, des créatures imparfaites. Et dans ce cas-là, nous reflétons non pas sa malice, mais nous reflétons en tout cas sa faiblesse. Donc Descartes place le lecteur devant cette alternative-là. Et en fait, le texte est rédigé de telle manière qu'en toute rigueur, on devrait en déduire qu'il choisit la première option, c'est-à-dire qu'il choisit l'option d'un dieu tout-puissant, mais d'un dieu qui n'est pas spécialement bon. Alors, je ne dis pas qu'il est mauvais, je dis qu'il n'est pas considéré comme bon, ne pas être bon n'implique pas d'être mauvais. Mais Descartes, aussitôt après avoir mis le lecteur en situation d'en déduire cela, dit « oui, mais il y a des gens qui préféreraient finalement renoncer à cette réponse logique parce qu'ils voudraient à tout prix sauver la bonté de Dieu ». Donc finalement, là, vous avez typiquement un élément baroque. La déduction qu'il devrait faire n'est pas faite parce que, du point de vue des convenances de l'époque, il ne peut pas défendre l'idée d'un Dieu qui n'est pas bon. Il vaut mieux abandonner la puissance que la bonté de Dieu. Et donc, finalement, on a une espèce de brouillard à ce moment-là.
Ben oui, parce qu'il redouble la difficulté. Déjà, toute son expérience en tant qu'homme, l'expérience de son corps, de son esprit, savoir s'il rêve ou pas, s'il est fou ou pas, est déjà très difficile à prendre en compte, puisqu'il postule l'inexistence de toute chose. Mais en plus, il rajoute à cette difficulté première une seconde qui est celle de la prise en compte d'un dieu à propos duquel il ne peut pas dire ce qu'il veut.
Il ne peut pas dire ce qu'il veut, il y a une espèce de convenance qui tout d'un coup l'emporte sur la logique, ou qui l'emporte sur la raison. Et d'ailleurs, les formulations sont extrêmement précises. Il ne dit pas « Dieu est bon », il dit toujours « il est dit bon ». En latin, il dit « dicitur ». Il est « on le dit bon ». Vous voyez, et donc il montre de manière assez subtile que c'est un discours que l'on tient sur Dieu, et comme tout discours, il convient de le remettre en cause, il convient de le révoquer en doute. Donc ça, c'est vraiment le rôle du Dieu trompeur qui nous laisse dans une situation telle que dans tous les cas, on arrive à la conclusion selon laquelle tout ce qui est rationnel, au fond, est douteux, parce qu'on ne peut pas garantir que ce qui est conforme à la raison soit juste. Une fois qu'il a fini de dire cela, au fond, d'une certaine manière, la première méditation est finie. mais du point de vue rationnel. Maintenant, arrive la question de l'habitude, arrive la question de la vie quotidienne, et arrive le besoin de montrer que dans les faits, dans la vie empirique et quotidienne, il faut réussir à douter. Et pour ce faire, il produit cet artifice, comme dit Henri Gouillet, c'est-à-dire ce malin génie. Vous remarquerez que malin génie, il y a le mot mal, qui n'apparaît pas dans le dieu trompeur. Malin génie, il est mauvais. Et il est mauvais, mais c'est une simple forme d'artifice, en ceci que c'est quelque chose qui, en toutes circonstances, me trompe. Non pas parce qu'il m'aurait fait avec un esprit déficient, mais parce que, en fait, dès que je crois quelque chose, il fait en sorte que je sois dans l'erreur. Donc le malin génie, c'est un artifice qui me permet de dire, finalement, oui, j'ai du mal à douter, mais j'ai quand même de bonnes raisons d'en douter, parce que le dieu trompeur a été établi. Et pour me rappeler ce que j'ai établi avec le dieu trompeur, je forme cet artifice qu'est le malin génie, qui, dans les faits quotidiens, m'aide, concrètement parlant, à douter de ce que j'ai établi rationnellement.
Ce qui est formidable avec ce texte, c'est que je rappelais le contexte historique et les raisons pour lesquelles il se devait de défendre Dieu ou de ménager une place à Dieu dans ce texte. Je rappelle, pour qu'on ait bien une idée du contexte dans lequel il écrivait, que quelques années auparavant, il renonce à publier le traité du monde et de la lumière suite à la condamnation de Galilée, qui affirmait l'héliocentrisme. C'est dire à quel point il n'était pas libre de sa parole par rapport non seulement au monde lui-même, mais à Dieu. Dès qu'il s'agit d'évoquer Dieu, il peut être condamné pour ce qu'il écrit. Mais quand même, au-delà du contexte historique, on peut recevoir ce texte d'une autre façon. La question, l'hypothèse d'un malin génie, d'un dieu trompeur qui ferait que, eh bien, ce que nous tenons pour vrai est en réalité faux ou n'est pas ce que nous pensons, la réalité n'est pas ce que nous pensons qu'elle est, eh bien, c'est un scénario, en fait, au sens propre du terme, qu'on reprend beaucoup aujourd'hui. Je parlais de théorie du complot. Pensons à beaucoup de films, vous citiez Matrix, il y a le Truman Show également, autant de films qui postulent, finalement, qui jouent sur ce doute premier que nous ressentons tous parfois, de se dire, mais est-ce que je suis sûr là d'être en studio avec vous, Thibaut Grèce, ou pas? Et pour montrer à quel point ces expériences-là sont non seulement communes et banales, mais soulèvent des problèmes métaphysiques redoutables.
Oui, absolument. Vous parlez de scénario, c'est vraiment exactement le terme juste, sans aucun doute. C'est une mise en scène scénarisée d'une certaine manière, mais qui correspond quand même à une expérience qui n'est pas, de l'ordre de l'imaginaire, qui est de l'ordre de ce que l'on peut éprouver dès lors que l'on interroge de manière rigoureuse et rationnelle le type de rapport au monde que l'on peut éprouver. Et de ce point de vue-là, d'une certaine manière, Descartes, je dirais, révèle le fait que si l'on a vraiment le courage d'affronter ce que signifie qu'être au monde, eh bien il faut avoir le courage d'affronter ceci, à savoir qu'il est possible que rien, strictement rien de ce que nous considérons comme certain ne corresponde à quelque réalité que ce soit. Et là, il faut insister sur la question de la réalité. Le moment où l'on sort du doute, c'est-à-dire dans la seconde méditation, c'est un moment dans lequel non pas l'esprit est assuré, mais c'est un moment dans lequel une réalité apparaît. Et cette réalité, c'est celle de l'ego. Donc ce qui est en jeu dans la première méditation, c'est pas uniquement un artifice de méthode, c'est pas uniquement une manière de dire « bon, je vais douter parce que c'est utile méthodologiquement », mais c'est vraiment une manière de dire « je n'ai plus aucune réalité, y compris la mienne, à laquelle me rattacher ». Le seul moyen d'en sortir, c'est de découvrir enfin une réalité, et ce sera ce sol stable, ce fondement stable, qui sera la réalité de l'ego. Mais dans la première méditation, même mon ego, d'une certaine manière, s'est dissous. Même l'ego est douteux.
Alors, lisons les dernières lignes de cette première méditation. On vient de passer 45 minutes à les commenter. C'est quelques pages, la première méditation,
oui,
c'est 5 pages.
C'est très court,
très dense. On est loin d'en avoir fait le tour, et pourtant, vous nous avez donné tous les éléments pour pouvoir la lire à présent. Écoutons ces dernières lignes, qui sont magnifiques parce qu'elles réintroduisent finalement comme argument ou obstacle principal à la découverte, à la preuve de son existence et de l'existence du monde, et bien tout simplement la vie ordinaire.
Et oui.
Mais ce dessin est pénible et laborieux, et une certaine paresse m'entraîne insensiblement dans le train de ma vie ordinaire. Et tout de même qu'un esclave qui jouissait dans le sommeil d'une liberté imaginaire, lorsqu'il commence à soupçonner que sa liberté n'est qu'un songe, craint d'être réveillé et conspire avec ses illusions agréables pour en être plus longuement abusé. Ainsi, je retombe insensiblement de moi-même dans mes anciennes opinions, et j'appréhende de me réveiller de cet assoupissement, de peur que les veilles laborieuses qui succéderaient à la tranquillité de ce repos, au lieu de m'apporter quelques jours et quelques lumières dans la connaissance de la vérité, ne fussent pas suffisantes pour éclaircir les ténèbres des difficultés qui viennent d'être agitées.
Ce dessin est pénible et laborieux, nous dit le narrateur des méditations métaphysiques, car une certaine paresse m'entraîne insensiblement dans le train de ma vie ordinaire.
Oui, C'est très bien dit. On a l'impression de lire presque un moraliste. Et ce qui est merveilleux chez Descartes dans les méditations, en fait, ce sont les deux registres permanents qu'il tient simultanément. D'un côté, vous avez le registre métaphysique, le fait que les réalités soient fuyantes et pénibles. C'est-à-dire, il y a vraiment une expérience bouleversante, aujourd'hui on dirait presque traumatisante, à laquelle il doit faire face. Et il y a en même temps le registre du moraliste, de celui qui analyse, au fond, le fonctionnement de la psychologie, qui décrit la psychologie du rapport au monde dans des termes qui sont magnifiques et qu'on retrouvera d'ailleurs dans le traité des passions de l'âme, où Descartes à nouveau se fait moraliste. Et on a là quelque chose qui est tout à fait sidérant, qui va se reprendre d'ailleurs au tout début de la seconde méditation. Les premières lignes de la seconde méditation sont très belles, très métaphoriques, et il décrit la manière dont il s'est noyé, au fond. C'est une métaphore maritime,
aquatique
ouais. Dans laquelle il se noie. Il ne trouve ni le fond de l'eau dans laquelle il coule, ni la surface. Et donc, il décrit le caractère réel de ce qu'il a mis en scène dans le scénario dont vous parliez tout à l'heure.
Ça sera demain pour l'instant. Plongeons.
Exactement.
Ou dormons, c'est pareil.
Du sommeil à mon sommeil, je guette tout un long jour la nuit qui me ramène enfin le sommeil. Le rêve et ses merveilles, où de grands oiseaux blancs tournoient lentement. Au regard du, il neige de grands oiseaux de neige. Et de fatigue, emporté, je navigue, on ne m'éveillait pas. Des milliers d'oiseaux de lune se pose sur la dune de les effrayer. Oh, laissez-moi dormir, mes oiseaux, pour escorte. Je vais, la fatigue me porte plus loin, par le silence, silence, silence. Sommeil à mon sommeil, je guette tout un long jour le rêve, je rêve, je rêve, je rêve.
Les sons Descartes et Barbara à leurs rêves et à leur sommeil. Merci à vous Thibaut Grèce.
Merci à vous.
D'être venu lire avec nous cette première méditation métaphysique de Descartes. Je renvoie à votre ouvrage Descartes et la précarité du monde, un essai sur les anthologies cartésiennes aux éditions du CNRS, ainsi que vos leçons sur les méditations métaphysiques baroques et art d'écrire aux éditions Ellipse, et puis plus récemment est paru aux éditions Vrin, avec Paul, un livre dont vous êtes le co-auteur avec Paul Miro, La philosophie au risque de l'intelligence extraterrestre. On est là, dans les fictions cartésiennes poussées à un stade supérieur. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour ces deux minutes papillon. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Comme tous les jours, vous nous donnez envie de lire un livre qui vient de paraître, et aujourd'hui c'est un livre aussi à double auteur, tiens.
Double auteur, c'est un entretien à propos des arts, ça s'appelle Signaux sensibles, et c'est un entretien entre Jean-Luc Nancy et Jérôme Lèbre. Et on peut le découvrir aux éditions Bayard.
L'isolement. Comme conséquence de l'absence de compagnie et du déracinement, est, du point de vue de l'homme, la maladie dont souffre le monde où nous vivons. Même s'il est vrai, on peut encore y apercevoir des gens, de moins en moins nombreux d'ailleurs, qui s'agrippent les uns aux autres.
C'est Jean-Luc Godard que vous entendez. Jean-Luc Godard qui, je cite, parle sur une scène plongée dans l'obscurité d'où émerge son visage et aussi, projeté derrière et un peu au-dessus de lui, celui de Hannah Arendt, jeune, charmante, émouvante et qui semble regarder le public depuis une hauteur quasi céleste. Voilà à quoi ressemble la séquence que l'on vient donc d'entendre, séquence du film d'Anne-Marie Miéville, Nous sommes tous encore ici, et c'est le philosophe Jean-Luc Nancy qui la raconte ainsi dans ses entretiens avec Jérôme Lèbre. Alors pour Jean-Luc Nancy, il y a là de quoi souligner les rapports entre l'image et le langage, entre le visage d'Arendt et les mots lus par Godard, en fait entre le visage des penseurs et leurs textes. Et c'est vrai que l'on se pose trop peu la question de l'image des philosophes. À quoi ressemble un philosophe dont on lit un texte ou dont on entend le texte? Quels sont par exemple les portraits de philosophes que l'on a en tête et que l'on a formés avec certaines de leurs œuvres ou de leurs phrases? Comme le rappelle Jérôme Lèbre à Jean-Luc Nancy, pour Deleuze, l'histoire de la philosophie consiste bien à peindre des portraits mentaux. Et si l'on se demande souvent quelle est la signification de l'art, la question inverse doit tout autant se poser, comme elle se pose dans ce dialogue, à quoi pourrait ressembler le portrait d'un philosophe qui se formerait au gré de ses paroles? Comment pourrait prendre le portrait d'un homme et même d'une philosophie? Quel serait donc cet art de la signification philosophique? Peinture, musique, cinéma, photographie, tout comme l'art se démultiplie en genre et en forme, les pensées se forment elles aussi en autant d'allures et de styles. Elles se manipulent et se triturent avec technique et calcul, mais aussi avec maintes évocations et impressions. C'est ainsi que l'on suit celle de Jean-Luc Nancy ici et que se forme par touche son portrait.
Merci Géraldine. C'est donc un entretien entre Jean-Luc Nancy et Jérôme Lèbre.
Et ça s'appelle Signaux sensibles, entretien à propos des arts et c'est paru aux éditions Bayard.
Merci à vous Thibaut Grèce d'être resté avec nous. Merci à Livia Gary qui a préparé cette émission ainsi qu'au reste de l'équipe des Chemins, Antoine Ravon, Nicolas Bouteloup, Marianne Chassor, Olivier Bétard à la réalisation cette semaine, Nicolas Delmas à la prise de son aujourd'hui. Demain, nous continuons notre cheminement au sein des méditations, la méditation métaphysique de Descartes. Ce sera le philosophe Jean-Luc Marion qui viendra lire pour vous la seconde, deuxième méditation. Alors là, nous avons coulé jusqu'au fond du doute. Nous verrons comment la lumière commencera à poindre et nous pourrons sortir de ce doute. Peut-être. En tout cas, sur France Culture, vous allez sortir du doute métaphysique cartésien pour aller vers Culture Monde, présenté par Florian Delorme. Bonjour cher Florian.
Bonjour Adèle.
Vous nous emmenez en Asie centrale cette semaine, la terre du milieu.
Exactement, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, Turkménistan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, enfin des pays qu'on connaît assez peu et qu'on va essayer de découvrir un peu mieux cette semaine.
Eh bien à tout à l'heure Florian.
À tout à l'heure.
Ça, donc ce sera à 11h, tout de suite sur France Culture. Il est temps de retrouver votre feuilleton quotidien. La vie moderne, le jour où je suis devenue superstitieuse, de Christelle Alves-Mera et Anne-Claire Jolin.